La poussière se soulève dans le champ de bataille. Là, tu te fais un collier avec des fleurs d'incendie. Tu te pars seulement des fleurs de bouclier. À Coloacan, Nezahualpilli et Totokiwatsin avec la flèche. Je m'afflige, je pleure. Qu'il est heureux, celui qui va avec crainte. Les fleurs de bouclier sont dressées. Seulement, je verrai ce que veut mon cœur. Oh, il n'y a rien de pareil à la mort au combat. Il n'y a rien de pareil à la mort fleurie. Il l'apprécie, oh, celui par qui l'on vit. De là où vient mon chant harmonieux, je suis venu le chercher, et je m'afflige. Puissais-je ne pas chanter en vain? Où verrai-je tes fleurs, ô toi par qui l'on vit? Je m'afflige. Où vis-tu? Là où on vient te réjouir, toi par qui l'on vit, c'est là où tu es attendu, à l'endroit de ton précieux siège de plumes rouges, avec des fleurs tu es réjoui. Oh, seulement avec des fleurs mon chant a été peint, et j'entonne un chant pour toi, moi le chanteur à l'endroit des tambours. Seulement aussitôt ici tu es diverti, toi par qui l'on vit, oh, seulement avec des fleurs mon chant a été peint. Dieu, toi par qui l'on vit, où vis-tu? Dans le ciel, c'est là que tu vis, tu viens porter le monde dans tes bras, l'anahuac se tient dans ta main, de tous côtés du monde tu es attendu, tu es appelé à grands cris, tu es invoqué, vraiment tu es sollicité pour ta gloire et ta renommée. Ah, dans le ciel, c'est là que tu vis, l'anahuac se tient dans ta main. C'est donc un extrait d'un poème nahual, ce que Patrick Sorin, qui est mon invité aujourd'hui, appelle donc la poésie nahuale, avec une tradition sur laquelle nous allons revenir, dans le cadre d'un livre qu'il vient de publier aux éditions José Corti, qui s'appelle « Les fleurs de l'intérieur du ciel, chant de l'ancien Mexique, traduit du nahual et présenté justement par Patrick Sorin ». Donc bonjour Patrick.
Bonjour Gilles.
Voilà. Alors, j'ai lu un extrait, non pas la totalité du chant 2, dans le livre. J'aimerais aussi lire le commentaire que tu en fais par rapport à ce poème. Quelques lignes, en quelque sorte, de regard sur cette poésie. En parlant du chant 2, tu dis « Le poème s'ouvre dans la fraîcheur de la nouveauté, du commencement et de l'éclosion. Mais c'est d'un chant de guerre qu'il s'agit. L'aigle et le jaguar sont les métaphores de féroces combattants. Quant aux fleurs, elles représentent les prisonniers appelés à finir leur vie sur la pierre du sacrifice. Tué sur le champ de bataille ou sacrifié, le guerrier aura connu la... » C'est très difficile à prononcer.
Xochimilquistli.
Oula, Xochimilquistli. La prestigieuse mort fleurie, celle qui lui vaudra l'envié destin post-mortem de compagnon de l'aigle, compagnon du soleil. Dans la deuxième partie du chant, le poète s'adresse de façon directe à la divinité en s'affligeant et en pleurant afin de marquer son infériorité. Cette sollicitation est intéressée. Si le souverain fait la guerre, en définitive, c'est le dieu qui porte la cité dans ses bras et tient dans sa main l'anahuac, la vallée de Mexico. Les hommes, si puissants soient-ils, sont à sa merci. Le chant se termine sur un constat désabusé. Là où l'on vit sur terre, tout est misère. La seule échappatoire est de s'enivrer au combat. Là, dans la surexcitation de la bataille, le guerrier accède pour quelques instants à l'intérieur du ciel. Donc, on va revenir sur ces notions, sur cette dimension florale qui est insistante et récurrente dans toute la poésie nahuale. Je pense que pour les auditeurs, avant même que nous abordions justement de quoi est fait cette poésie, le contexte où elle a été dite ou écrite, ce serait bien de revenir sur cette civilisation. Cette langue, puisque le nahuatl, c'est une langue qui subsiste quasiment maintenant à l'état de résidu dans l'espagnol contemporain, non?
Disons que le nahuatl était la langue parlée à Mexico, la capitale aztèque, lors de l'arrivée des Espagnols, les conquistadors, en 1519. Il faut savoir que, à côté du nahuatl, il y avait une bonne centaine d'autres langues à l'époque, puisque ce qu'on appelle le Mexique aujourd'hui était un territoire très divers dans ses populations, dans ses langues, dans ses traditions, dans ses cultures. Or, à l'époque, parmi toutes ces langues, le nahuatl, la langue des Aztèques, des Mexicas, comme on les appelait également, occupaient une langue de tout premier plan pour la bonne et simple raison que les Mexicas étaient la population qui dominait une grande partie du territoire mésoaméricain. Donc ils avaient tout un ensemble de positions fortes, d'ambassades dans des endroits très éloignés, parfois jusqu'au Guatemala au sud. Donc c'est un territoire qui était assez étendu, sans forcément dominer toute la superficie. Et à l'époque, à côté de ces invasions militaires, il y avait aussi un fort commerce, de grands déplacements de populations commerçantes. Et le nahuatl, à cette occasion, jouait le rôle de langue franche. C'est pour ça que le nahuatl était une langue qui était beaucoup parlée à l'époque, à l'arrivée des Espagnols sur la terre mexicaine. Voilà, donc pour ce qui est de la langue, alors le contexte, donc je viens de le présenter, le nahuatl, langue parlée par les Mexicas, même s'il y avait d'autres langues, il y avait quand même tout un ensemble de traits communs de populations mésoaméricaines au niveau de la culture. D'abord, au niveau de la culture agricole proprement dite, il y a le maïs qui est un élément essentiel fondateur. À côté de cela, il y a d'autres traits qui servent à regrouper les sociétés du monde mésoaméricain, en particulier l'usage d'un calendrier de 260 jours, à côté d'un calendrier solaire. Il y a également le jeu de balles, donc tout un ensemble d'éléments qui permettent de dégager un profil mésoaméricain. Alors pour en revenir à la fleur, donc le titre « Les fleurs de l'intérieur du ciel », c'est un titre, je dirais, qui ne doit rien au hasard, puisque c'est une expression que l'on retrouve dans certains chants. Et j'emploie le mot « chant » plutôt que « poème » parce que ces textes que l'on lit étaient chantés à l'époque, ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que le mot « chant » paraît plus approprié. Donc les fleurs, ce sont les éléments qui reviennent de façon récurrente. Il n'y a pas un seul chant où le mot fleur n'est pas employé, on l'a vu pour le chant précédent, il est employé à plusieurs reprises avec, je dirais, miroitement tout un ensemble de métaphores. Les fleurs de l'intérieur du ciel, ça désigne l'endroit où se crée la poésie, c'est l'endroit où règne la divinité duel que l'on appelle au météote, le dieu double, la paire masculine et la paire féminine, qui règne dans un lieu de la dualité qui s'appelle l'Omeyocan, en langue nahuatl. C'est de là, donc, l'intérieur du ciel, que vient la création. Donc ça, c'est un élément tout à fait essentiel. Et on retrouve la fleur pour désigner le sacrifié, pour désigner le guerrier, pour désigner la poésie. La poésie, en langue nahuatl, était désignée par un binôme, la fleur, le chant, ouais. Littéralement « insochit inquicatl » dans la langue nahuatl. Donc on voit que la fleur, c'est un élément très important et, je dirais, avec des emplois différenciés dans l'imaginaire et dans la pensée des anciens Mexicains.
Ouais. Alors justement, on avait fait dans la revue les périphériques que vous parle, il y a quelques années, un entretien relativement, comment dire, exhaustif sur tous les aspects de la civilisation aztèque. On pourrait peut-être revenir, puisque finalement c'est une civilisation qui va perdurer 2 siècles et qui va être annihilée, anéantie en très peu de temps par les conquistadors. Alors on pourrait peut-être resituer la splendeur et la misère de cette civilisation.
Tout à fait. Alors c'est vrai que de l'extérieur, quand je dirais le public profane est confronté à ces civilisations, il a tendance à mélanger Aztèques, Incas, Mayas, sachant qu'il y avait d'autres populations. Donc il faut savoir que la société aztèque, d'après les sources, donc, elle a 2 siècles, je dirais, d'existence en tant que telle. C'est-à-dire qu'on a, d'après le mythe, là aussi qui est une reconstruction historique, une date qui est la date de 1120 et quelques, où une population, une tribu quitte Aztlan. On ne sait pas trop ce que veut dire ce mot. Donc c'est un endroit qui est au nord de Mexico. On a du mal à le localiser. Donc au nord du Mexique actuel probablement. Et Aztlan, on le traduit par le lieu de la blancheur, le lieu de l'aigrette. On a du mal à le traduire. Et cette population quitte ce lieu et descend le long des plaines inhospitalières du Nord, comme beaucoup d'autres tribus à l'époque l'on appelait les Chichimèques, Chichimeca, les lignages de chiens, si l'on veut le traduire littéralement. Ces populations sont ce que l'on peut qualifier des barbares, des chasseurs-collecteurs qui descendent et qui, petit à petit, vont se sédentariser. Et ça va être le cas avec cette population partie d'Aztlán qui va, en 1325, fonder Mexico Tenochtitlan, la capitale.
Auquel tu avais d'ailleurs consacré un livre pour le Musée de l'Homme, je crois, il y a quelques années aussi.
Alors, je fais quelques travaux. J'ai travaillé sur les chants sacrés, donc, à l'époque, les chants religieux donc, qui ont été chantés à Mexico Tenochtitlan. Alors, cette création, à mon avis, n'est pas vraiment une création, puisqu'il y a de fortes chances que les nouveaux venus se sont installés sur une cité qui existait déjà et se sont un petit peu fondus dans le paysage. Alors comment se fait-il qu'en moins de deux siècles, les Aztèques soient parvenus à ce niveau de domination sur le territoire mésoaméricain ? Bien, ça s'explique pour la bonne et simple raison. Il y a plusieurs facteurs, mais un facteur essentiel, c'est que les Mexicas étaient une tribu guerrière. C'est-à-dire, ils louaient un petit peu leur service comme des mercenaires aujourd'hui au profit de certaines cités qui avaient des problèmes avec des cités voisines. Et petit à petit, ils ont été très conscients de leur force et ils se sont constitués en force autonome et ils ont refusé de servir les autres grandes cités. Et c'est ainsi que Mexico donc, est devenu un élément important d'un ensemble qui s'appelait la Triple Alliance, qui regroupait trois grandes cités dont Mexico. Et très vite, les Aztèques ont pris la direction des opérations et sont devenus la population hégémonique. Mais c'est vrai que leur durée de vie sur la terre aux alentours de Tenochtitlan, Mexico-Tenochtitlan, c'est deux siècles, c'est quelque chose de très court. Et ça s'est achevé dans la catastrophe que l'on sait qui a été la conquête espagnole, sur laquelle il faut quand même revenir et dire que cette conquête motivée essentiellement par des raisons commerciales, c'était rechercher l'or. Il n'y a qu'à lire les textes des guerriers espagnols, des conquistadors pour le confirmer. Et puis la volonté d'évangéliser dans la foulée de convertir. Et à l'issue de cette conquête, suite aux guerres et aux maladies, on a 90% de la population qui a été décimée. Oui. Donc c'est un véritable génocide auquel on a assisté. Avec, au-delà de la destruction des êtres humains, la destruction des objets, des statues, des temples, des livres, tout un ensemble d'éléments, et puis la destruction des rituels, de la représentation, et à travers l'installation de la nouvelle religion, ce que Serge Grusinski a pu qualifier de colonisation de l'imaginaire, ce qui est plus grave parce que ça a gommé tout un ensemble de représentations. Alors, c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, le nahuatl, il est encore parlé dans certains endroits du Mexique, mais la langue qui est parlée est une langue qui a perdu tout son arrière-plan idéologique, religieux, cosmogonique, qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec les représentations du passé. Ça, c'est un point qu'il faut souligner. La langue sur laquelle j'ai travaillé, à l'époque, était appelée le nahuatl classique. C'était la belle langue. Il y avait le nahuatl, courant, qui était plus ou moins utilitaire, mais la langue qui était parlée, qui était utilisée dans les chants, c'est la langue employés par les princes, puisque c'était eux essentiellement les compositeurs de chants, cette langue-là était une langue reconnue comme très belle.
Et pour revenir sur la civilisation, on parle, puisque justement tu fais état que cette poésie essentiellement a été écrite par des princes, donc par une aristocratie guerrière. Donc effectivement, la civilisation aztèque a été anéantie, elle était d'essence guerrière, et elle dominait par la guerre. Donc ça, c'était des choses que tu avais notamment relatées dans nos entretiens. Et curieusement, c'est une civilisation très guerrière qui n'a pas pu résister à une poignée de conquistadors. Donc il s'est produit aussi un anéantissement paradoxal par rapport à la
puissance qu'elle représentait. Tout à fait. Alors il faut préciser que les conquistadors, c'est vrai, ils étaient une poignée, ils étaient 500. Par contre, la chance qu'ils ont eue, ça a été de trouver dans les cités qui était en guerre contre Mexico, puisque Mexico, cité guerrière, on l'a dit, était en lutte avec les autres cités pour leur imposer le paiement d'un tribut, et également guerrier pour être sacrifié, parce que le sacrifice est aussi un élément très important dont on avait parlé à l'époque. Donc les Espagnols se sont alliés avec les ennemis de Mexico, et ainsi ils ont pu représenter des milliers, voire des dizaines de milliers de guerriers, et qui ont pu venir à bout du pouvoir aztèque. Le pouvoir aztèque, il est mort, si je puis dire, à la fois du fait de conquistadors espagnols, mais également du fait des autres populations qui se sont alliées avec les Espagnols et qui ont contribué fortement à la mise à bas du régime aztèque qui était dirigé à l'époque par Moctezuma, le souverain aztèque bien connu. Donc voilà un petit peu pour revenir sur cette histoire. C'est un ensemble de concours de circonstances qui a fait que on est arrivé à cette catastrophe. Et d'ailleurs, les alliés des Espagnols à l'époque, je pense, ont dû le regretter amèrement, puisque les Aztèques n'étaient pas des tendres, mais le pouvoir auquel ils ont été confrontés n'était pas plus tendre que celui des Aztèques.
Alors, on est dans le cadre d'une société sacrificielle qui s'organise autour de sacrifices humains, dont l'ampleur a en quelque sorte fait reculer d'horreur beaucoup d'historiens ou d'exégètes, même il suffit de relire Bataille, etc. Mais en même temps, on a aussi, il faut resituer le sacrifice dans un contexte où le sacrifice n'est pas une mise à mort au sens classique. Le sacrifice est sacrifice, il n'est pas la négation de la vie, au contraire, et l'affirmation de la vie dans le sens où il n'y a pas de discontinuité entre la vie et la mort. Donc ça, je crois que c'est important parce que tu soulignes dans l'introduction de dire que ces poèmes, il y a une sorte d'omniprésence de la mort. Il y a presque une mort qui est omniprésente, qui hante. Il y a l'imminence de la fin prochaine. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acquiescement à l'éternité, mais de proximité tout le temps menaçante, farouche de cette vie qui est appelée à tout moment à cesser, quoi, en quelque sorte. Enfin, de cette vie profane, entre guillemets, même si c'est peut-être pas la terminologie qui convient ici.
Alors, tout à fait. Donc là, il y a deux points que tu as soulevés qui sont tout à fait intéressants. C'est vrai que le sacrifice n'est pas la négation de la vie. Je dirais même que c'est le contraire, puisque la vocation du sacrifice, selon la religion des anciens Mexicains, était de nourrir le soleil et de permettre, grâce au cœur qui était arraché, au sang qui était versé, la poursuite du mouvement cosmique. C'était ça. Donc le fond, c'était le sacrifice, c'est pour vivre, pour que la vie continue. Puisque si l'on revient sur un mythe célèbre connu sous le nom de la Leyenda de los Soles, la légende des soleils, lorsque les dieux ont créé le monde à Teotihuacan, et à ce passage, à ce propos, je souligne qu'il y a une très belle exposition au musée du Quai Branly sur Teotihuacan, qu'il faut aller voir impérativement, il y a de très belles pièces. Donc à Teotihuacan, d'ailleurs Teotihuacan, ça signifie l'endroit où l'on devient dieu. C'est une origine en quelque sorte. Et donc les dieux se sont regroupés à Teotihuacan, selon ce mythe, et se sont dit, voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qui va éclairer le monde? Et puis les dieux n'étaient pas trop, je dirais, enclins pour éclairer le monde, puisque ça voudrait dire qui va se sacrifier pour créer le monde. Et il y a deux dieux qui se sont désignés. Un très prestigieux, avec de belles plumes, des bijoux précieux, Tecusistecatl, celui du coquillage marin. Et un autre beaucoup plus modeste, pas très beau de son aspect, petit, bossu, plein de pustules, Nanahuatzin, le buboneux. C'est ainsi qu'on l'appelait. Et derrière ces personnages, il faut interpréter le riche Tecusistecatl. Ce sont les populations qui dirigeaient avant l'arrivée des Aztèques. Ce sont les princes, peut-être les Toltecs qui existaient ou leurs successeurs. Et le modeste, le buboneux, celui qui n'offre que ses croûtes de sang en sacrifice au lieu de bijoux précieux, eh bien, ce sont les Mexicas qui arrivent. D'accord. Et il s'agit de se précipiter dans le brasier après avoir passé quelques jours à jeûner sur une montagne. Et au moment de s'élancer, Tecusistecatl, qui a voulu s'élancer le premier, n'y parvient pas. À plusieurs reprises, il tente et il échoue. C'est alors que Nanahuatzin, lui, se lance le premier dans la fournaise, brûle et se transforme en soleil. Voilà cela, Tecusistecatl prend son courage à deux mains et se précipite à son tour dans la fournaise et devient aussi un astre. Les voyant briller de la même façon dans le ciel, il y a un des dieux qui dit, c'est pas juste qu'il brille également parce qu'il y en a un qui a été plus courageux que l'autre. Il a attrapé un lapin, et il a jeté dans l'astre qui brillait et qui était Tekusis Tekat et qui est devenu obscurci. C'est pour ça que, dit la légende, on voit un lapin dans la lune. Chose que l'on retrouve dans d'autres sociétés d'ailleurs, cette histoire du lapin, du moins la représentation du lapin dans la lune. Et suite à ça, donc, les deux dieux étaient en l'air, sous la forme d'astre, et ne bougeaient pas. Et imaginez ce que ça donnait en matière de chaleur, donc c'est quelque chose de très important. Et les dieux se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, ils ne bougent pas, il faut qu'ils bougent. Et Nanawatsin a exigé que l'ensemble des dieux se sacrifient. Et tous les dieux ont dû se sacrifier pour que le cosmos se met en branle. Il y a un dieu qui a essayé d'y échapper, mais il a été rattrapé, il a été sacrifié. Donc l'ensemble des dieux se sont sacrifiés, c'est-à-dire que notre monde est né sur le sacrifice, non pas des hommes, mais de l'ensemble des divinités. Et à partir de là, il a fallu nourrir ce mouvement, d'où le sacrifice humain. Donc le sacrifice, c'est quelque chose qui nécessite, bien sûr, une fréquence, une périodicité, mais il faut relever que au-delà de cet aspect religieux, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus politique du sacrifice chez les Aztèques, c'est l'aspect quantitatif, parce qu'on aurait pu très bien envisager un sacrifice symbolique, soit de quelques personnes sacrifiées, soit même une métaphore, comme la communion telle qu'elle est dans la religion catholique. C'est pas du tout ce qui a été retenu. Il a été retenu justement de poursuivre le sacrifice humain et en quantité. Avec derrière, au-delà de l'aspect religieux, des motivations politiques qui étaient moins avouées et moins avouables, c'est de décimer les populations ennemies, notamment les guerriers, puisque les guerriers qui étaient capturés étaient appelés à être sacrifiés sur la pierre du sacrifice, le fameux Teshkatl. Et ça permettait d'affaiblir les cités et, tout en se donnant une apparence religieuse, de maintenir un pouvoir, d'une part en faisant peur et en décimant les élites guerrières des populations, des cités ennemies. Donc voilà les deux aspects deux des aspects du sacrifice qui me semblent importants de relever.
Alors quand on engage un pareil travail, il y a effectivement un problème d'authenticité des sources que l'on va utiliser, d'autant que Patrick, tu as plusieurs talents par rapport au fait, tu as un talent, tu connais cette langue, donc c'est un travail en quelque sorte de l'intérieur de la langue aussi pour essayer d'avoir une traduction justement aussi qui prenne acte des recouvrements par la langue espagnole. Donc comment tu as travaillé, tu décris dans l'introduction avec quelles sources tu as pu travailler, et donc j'imagine c'est un premier obstacle à lever, ça, cette authentification des sources, ou disons des textes qui seraient en quelque sorte les textes les plus fiables.
Alors tout à fait, tu mets le doigt sur une question qui est tout à fait essentielle dans ce type de travail, c'est la critique des sources. Il faut savoir que les chants que j'ai traduits ont été recueillis par les Espagnols en caractère latin sur des manuscrits à l'époque, parce que d'après les traditions, il existait des livres de chants, on n'en a pas trouvé à ce jour, du temps des anciens Mexicains. Et il faut savoir que le type d'écriture qu'ils avaient d'après les quelques manuscrits qu'ils nous ont laissés, c'était pas une écriture comme la nôtre, avec des consonnes, des voyelles, ce genre de choses, mais une écriture à partir d'images, et avec la nécessité d'une reconstruction, même si on a pu, sur certains manuscrits, avoir la transcription de certaines syllabes, l'essentiel de l'écriture était une écriture à base de dessins, de représentations. Donc la première chose à faire, lorsqu'on travaille sur les documents, moi j'ai travaillé sur les copies, les facsimilés de manuscrits originaux, parce que lorsque les franciscains essentiellement sont arrivés, donc avec d'autres religieux, les dominicains, etc., pour évangéliser, ils ont appris la langue, le nahuatl, et ils ont recueilli un nombre très important de témoignages sur les rites, sur les fêtes religieuses, sur la vie de tous les jours, sur les animaux, sur la faune, sur la flore, et sur les chants. Et on a la chance de disposer de deux grands manuscrits qui sont les Cantares Mexicanos, premier manuscrit qui est à Mexico, et un autre manuscrit qui est au Texas, à Austin, aux États-Unis, qui s'appelle Romances de los Señores de Nueva España. Ce sont deux manuscrits qui comprennent des chants en langue nahuatl, mais transcrits en caractère latin, Et c'est à partir de ces textes que j'ai travaillé. Alors, ce qu'il faut faire également, c'est la critique des sources, c'est-à-dire que dans certains textes, on sent la main et un petit peu l'esprit espagnol, c'est-à-dire on trouve le mot Dios qui arrive et qui remplace le mot Théotl, qui désigne la divinité. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que Théo, en grec, c'est la divinité, et en aztèque, c'est Théotl, en langue nahuatl, donc c'est assez curieux ce rapprochement. Il y a d'autres références aussi à un dieu unique, là aussi, donc bon. Mais une fois qu'on a fait la critique de cela, eh bien, il y a d'autres éléments qu'il faut aborder, c'est-à-dire il y a des mots qui sont pas très bien écrits, qu'il faut transcrire. Le passage d'un chant à un autre, c'est pas si évident que ça pour certains chants. Il y a des onomatopées qui sont incluses dans certains mots pour des raisons euphoniques. Et si l'on connaît déjà le caractère polysémique de la langue nahuatl, qui est une langue agglutinante, qui agglutine des racines, on a une grande difficulté de traduction. Mais malgré ça, malgré toutes ces difficultés, je pense qu'on peut arriver à donner une traduction de ces chants, et surtout d'éclairer, parce qu'on a vu tout à l'heure en parlant de la fleur, qu'il y avait derrière ce mot tout un ensemble de significations. Donc quand on parle de la fleur du bouclier, le bouclier c'est le nom d'une fleur, mais ça fait référence au guerrier. Donc si je parle de la fleur de maïs grillé, donc c'est plutôt une référence à une courtisane, à une princesse qui est là. Donc il y a plusieurs niveaux métaphoriques autour de la fleur qui peut se décliner à l'infini.
D'ailleurs, c'est très intéressant parce que sur cette question des incrustes par une langue, disons, dominante, hein, je travaillais récemment sur une version à jouer de l'Alcibiade de Platon, et fatalement, il y a, pour avoir s'approché sur des notions grecques et non plus des notions latines teintées de catholicisme, il y a une sorte d'opération de déchristianisation du texte, bien évidemment, qui se produit de la même manière, puisque là où on aurait le daimon, on trouve un dieu, par exemple, hein, donc on trouve des références à l'âme, qui ne sont pas les bonnes références, si on se réfère au pneuma plutôt grec, etc. Donc on a aussi un balisage ou un rebalisage du texte pour lui faire dire ce qu'il ne saurait dire à l'origine, dans le sens, en quelque sorte, de le polir, de façon à ce qu'il s'inscrive comme étant une prémonition de ce qui ultérieurement sera justement le bon sens, en tout cas le sens que l'on convoque, que l'on veut convoquer, quoi. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Enfin, c'était un petit parallèle par avant, entre le grec recouvert par le latin, quoi. Donc,
alors tout à fait, c'est vrai que cet aspect de traduction est tout à fait délicat. Alors, il y a des mots, il y a des passages, quand on a des doutes, on les annonce, on le dit, c'est comme ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le travail de traduction nous amène à réinterroger nos propres traditions et nos propres conceptions. Il y a fréquemment dans les chants des adresses à la divinité. Et le philosophe Jean-Luc Nancy, donc, qui a eu le travail de me demander, mais... est-ce que la religion mexica était une religion polythéiste ? Parce que souvent, il y a des adresses à un seul lieu. Effectivement, on a des adresses à une seule divinité, et il semble que cette divinité, elle recouvre tout. Et un des éléments de ce type d'approche, c'est de réinterroger sa propre tradition. La distinction que l'on fait, qui est très cartésienne, entre polythéisme et monothéisme, pour moi, elle n'est plus aussi évidente que ça. Les Mexicas, dans certaines situations, pouvaient avoir, je dirais, un esprit et une parole monothéiste, au sens où on l'entend, s'adressant à un seul dieu, ou même à une dualité qui était à la fois une dualité, mais quelque chose d'unique, en quelque sorte. Il y avait deux aspects dans une même chose. Et par ailleurs, ça nous réinterroge par rapport à notre tradition à nous. Le christianisme, est-ce que c'est une religion aussi monothéiste que ça ? Puisque il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait beaucoup de monde qui se bouscule au portillon de la divinité, si je puis dire. Ouais. Donc là aussi, on peut trouver des déclinaisons qui ne sont pas aussi tranchées que cela. Donc un dieu ou plusieurs dieux À la limite, on voit que le problème est accessoire, parce qu'il y a quelques textes qui existent des anciens Mexicains qui pourraient être parfaitement signés par des religions monothéistes, qui pourraient s'en emparer, sans savoir au départ que c'est un texte qui provient d'une culture dite polythéiste.
Oui, oui. Mais je pense qu'on va peut-être faire, non pas une pause, mais on va se délecter en écoutant un morceau de Maurice Ravel. Il est absolument pas en relation directe avec le sujet de notre émission. C'est l'infante pour la pavane pour une infante disparue. Donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission des Périphériques vous parle. Et je suis donc, mon invité est aujourd'hui Patrick Serin à l'occasion de la sortie de son livre Les fleurs de l'intérieur du ciel chez José Corti. On se retrouve dans quelques minutes.
pareil à des fleurs, les champs sont nos vêtements, ô mes amis, avec lesquels nous venons vivre sur terre. Ils sont vrais, nos champs, elles sont vraies, nos fleurs, les champs harmonieux et nouveaux. Si vraiment ils sont jade, or large plume de Quetzal, que je puisse venir les offrir à l'endroit des tambours, ici, est-ce que vraiment seulement s'effacera notre mort sur terre? Je suis le chanteur pour un seul moment en ce lieu. Nous nous réjouissons avec nos chants, nous nous revêtons de fleurs ici. Il le sait absolument notre cœur, seulement nous partirons en laissant cela. Et c'est pour cela que je pleure, que je m'afflige. S'il est vrai seulement que personne ne partagera tes richesses, tes fleurs, toi qui te crées toi-même, qui es Dieu, que seulement nous partirons en laissant cela, alors pour cela je pleure, je m'afflige. Avec des fleurs ici, elle vient tresser ses liens, la noblesse, la communauté des amis. Réjouissons-nous avec eux, car notre unique demeure est sur terre, l'endroit du mystère, ici, là, maintenant. Pas encore en un tel endroit, sur terre, la fleur, le champ, se trouve ici. Seulement, une seule fois ici, en fait, on est enveloppé dans un linceul. Qui est connu en un tel lieu? Vit-on encore vraiment? Il s'afflige, il se souvient. Seulement notre véritable maison, c'est aussi là où nous vivons. C'est donc le chant 9, tiré du livre de Patrick Sorin, avec qui je suis, Les fleurs de l'intérieur du ciel. Alors on pourrait revenir, Patrick, sur le contexte où cette poésie, qui est une poésie qui est faite pour le récitatif aussi, pour une déclamation, donc là on rejoint un peu aussi l'essence de la poésie dans la Grèce antique, hein, le poète acteur. Là, elle avait, on pourrait revenir sur le contexte où cette poésie est dite, parce qu'elle a aussi une valeur pour les aristocrates princiers qui l'écrivent. Je ne sais pas, on verra si c'est eux qui ont le monopole de l'écriture de cette poésie ou de la conception de cette poésie. Est-ce que c'est un exorcisme de la peur? Il y a beaucoup d'éléments, en fin de compte, qui s'entremêlent pour savoir quelle était la motivation de ces princes d'écrire ces chants. Mais tu dis, à un moment donné, tu dis, les poètes se retrouvaient pour entonner leurs chants dans la... Alors là, j'ai un problème aussi. La Sochikali, c'est ça?
La Sochikali, littéralement, c'est la maison des fleurs.
La maison des fleurs, près du Mécatlan.
La maison de la poésie près du Mécatlan, c'est l'endroit des cordes. Et la corde, c'était l'insigne des musiciens. Donc, ils portaient une corde autour du front en signe distinctif de leur art musical.
D'accord, un édifice dédié aux musiciens, appelé ainsi en référence aux cordons noués autour de leur chevelure par les musiciens en reconnaissance de leur art. Donc, c'est une poésie essentiellement qui émane de l'aristocratie guerrière.
Alors, tout à fait. Ça, c'est un point sur lequel il faut insister. C'est que les chants que l'on a sous la main, à notre disposition, sont des chants, quand les auteurs sont mentionnés, beaucoup sont anonymes d'ailleurs, il faut le relever, la plupart des auteurs sont des souverains, sont des princes qui gouvernaient des cités. Alors, la composition poétique est à la fois une façon d'affirmer son pouvoir, de se singulariser, de se valoriser, de laisser une trace. Et on sait que dans ces sociétés où la tradition orale est importante, même s'il y avait des livres, comme je le disais, laisser une trace à travers le chant est très important. Il arrive même que certains souverains s'approprient des chants qu'ils n'avaient pas composés. C'est pour ça que la généalogie, l'histoire du chant, on a du mal à avoir des éléments très fixés par rapport à ça. Donc la poésie est essentiellement un art qui relève d'une aristocratie princière et guerrière également, puisqu'il y avait les deux aspects. Et dans ces chants, on trouve à la fois des éloges de la guerre, des exaltations de combat, mais on trouve aussi une valorisation des plaisirs terrestres, puisque les chants étaient déclamés lors de rencontres de poètes, lors desquels il y avait également la consommation de cacao, la boisson de cacao qui est une boisson très prestigieuse qui était réservée aux princes, aux guerriers, aux puissants, puisque les pauvres, sauf cas exceptionnels, n'avaient pas le droit de boire le cacao. D'ailleurs, c'était une boisson qui était très coûteuse. Et il y avait également, on fumait et des cigares, des pipes. Il y avait également parfois consommation de substances hallucinogènes. Il y avait des danses, il y avait la présence de dames de cour. dont il y avait un contexte extrêmement festif. Mais dans ce contexte festif et dans ses poèmes, on a une balance entre deux états. Un état qui est une exaltation, c'est-à-dire l'exaltation du moment présent. Retrouvons-nous les amis, chantons. Ça, c'est le premier aspect. Et après, on a le doute. On a le questionnement, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Je parle à un Dieu qui ne me répond pas. Il y a ces deux aspects. Et le chant neuf que tu viens de lire est tout à fait révélateur de cet état d'esprit, puisqu'effectivement, il y a une interrogation. Ils sont vrais, nos chants ? Ils sont vrais, nos fleurs ? C'est une affirmation, mais avec un questionnement. Et cette question qui est tout à fait subtile, est-ce que vraiment seulement s'effacera notre mort sur Terre ? Ce n'est pas notre vie, c'est notre mort. Donc là aussi, on va très très loin par rapport à je dirais, un questionnement. Alors, il y a l'exaltation, nous revêtons de fleurs ici. Donc, il y a l'appel à partager, réjouissons-nous avec eux. Et de suite après, l'endroit du mystère. Ici, pas encore dans un tel endroit. On a un monologue intérieur, on a le chanteur, le poète, qui se parle à lui-même, qui se dit, ben là, profitons. Et puis, il y a des mauvaises pensées qui lui traversaient l'esprit. Il pense à l'endroit du mystère, c'est-à-dire la région des morts. Et puis, pas encore en un tel endroit. Seulement une seule fois ici, en fait, on est enveloppé dans un linceul. Le linceul, c'est le linceul mortuaire. Et puis, la question, qui est connu dans un tel lieu, vit-on encore vraiment, sous-entendu, l'endroit des morts ? Et puis, déjà, le poète s'imagine dans la région des morts. Il s'afflige, il se souvient. C'est-à-dire, en mort, il se souvient de son temps de vie. Seulement, notre véritable maison, c'est aussi là où nous vivons. Donc, il y a cette volonté de vouloir s'accrocher à tout prix à la vie terrestre et à la poésie, qui est à la fois, je dirais, l'instrument du plaisir, mais également ce qui met la question au sens de ce qui torture aussi.
Mais il n'y avait pas donc des... Est-ce qu'il y avait un pendant, une expression, disons, plus populaire, une traduction plus populaire de la poésie, ou elle était véritablement l'objet d'une captation par cette caste de princes ?
Alors, il y avait deux langages. Il y avait le Tekpilo Tlatoli, c'est-à-dire la langue des seigneurs, et il y avait également une langue, la Masewal Tlatoli, la langue des hommes du peuple, du commun. Ouais. Mais de ces hommes du peuple, il ne reste pas grand-chose. Comme dans beaucoup de sociétés, on a peu de traces. Ces gens n'avaient probablement pas le temps ni le loisir d'écrire. Ils étaient astreints de tâches dans les champs. Et puis, comme guerriers de base, si je puis dire, lors des conflits. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de traces d'hommes du commun. Si je puis dire. Les seuls éléments que l'on ait à notre disposition qui sont signés avec les réserves que je mets sur les signatures des auteurs, que ce soit les princes. Alors, il y a un prince très célèbre qui a signé de nombreux chants qui s'appelle Nessawalpili, qui est un souverain très célèbre. Mais on a essentiellement des princes guerriers. L'homme du commun n'apparaît pas. C'est pour ça que je tenais à le préciser.
Non, parce qu'on retrouve d'une manière aussi très diffuse dans l'histoire des humanités, notamment en Mésopotamie, dit qu'effectivement, lorsque même avec les tablettes d'argile, l'écriture, c'est une acmé du pouvoir de certains hommes instruits sur d'autres hommes qui n'ont pas justement la science des signes. Et donc, avant même qu'il y ait la diffusion de l'écriture, il y a eu une étape qui était justement la rétention jalouse de ce pouvoir que représentait l'écriture. Donc c'est pour ça que le fait que la poésie soit captée par les princes...
Alors tout à fait, la poésie, c'est un privilège, comme l'écriture aussi. L'écriture, il fallait passer par une école religieuse pour apprendre à écrire les manuscrits, à maîtriser le calendrier. Il y avait tout un apprentissage. Il y avait un collège religieux et à côté, il y avait un collège guerrier, donc pour former les jeunes militaires.
Y a beaucoup de renvois. Enfin, tu resitues aussi beaucoup la poésie nahuale par rapport à des résonances qu'elle a avec des poètes plus contemporains, notamment. Fait référence à Rilke, à Mallarmé, aussi, la fleur, le chant, il y a une référence à ce magnifique vers de Silésius, La rose et son pourquoi.
Tout à fait.
D'ailleurs, qui donnera à Heidegger l'idée de faire, à partir de ce vers, de commencer d'amorcer son essai qui s'appelait Le principe de raison. Justement, La rose et son pourquoi, mais pourquoi nous voulons trouver une raison à toute chose, etc. Et donc, comment tu as entrepris ce travail, disons, de remettre en jeu cette poésie, qui est une poésie du sacré, en quelque sorte, en même temps qu'une poésie du sacré, mais du sacré dans un sens de l'immanence des choses, y compris de la mort ou de après la mort. Il y a pas, parce qu'il y a pas de morale finalement. Il y a jamais de morale dans la mythologie. Il y a des récits mythiques, mais on trouve pas de sens. On trouve un sens qui est éventuellement un sens provisoire, un sens possible. On trouve pas un sens au sens d'une finalité. Qui subordonnerait par son pouvoir, par sa normativité, le destin humain. On a quelque chose aussi de l'ordre d'une vie qui ressemble à une hémorragie, quoi, de possibilités offertes ou non, de se battre, de se faire plaisir, de vivre l'instant présent, etc., etc. Donc, c'est intéressant parce que tu cites aussi Hölderlin, qui est une forme de poésie, de rapport au sacré. De rapport à un dieu qui n'est pas un dieu de la morale, qui n'est justement pas un dieu de la génuflexion, qui est une sorte de dieu de la nature, qui est une sorte de dieu diffus, une sorte de force, des choses comme ça. Donc, il y a tout un. Tu renvoies beaucoup justement à des formes de poésie plus contemporaines, en Occident par exemple.
Tout à fait. Alors, c'est intéressant la question que tu poses, parce que, effectivement, chaque chant est accompagné d'un commentaire et qui est introduit par un extrait d'un poème, d'un poète de notre lieu et de notre temps. Et ça s'est fait tout seul, c'est-à-dire lors de la lecture et la traduction du chant, aussitôt, ces autres poètes se sont venus, se sont invités. C'est-à-dire, on a lu le chant neuf qui pose beaucoup de questions par rapport à la présence sur Terre, à la vie, à la mort. Eh bien, cette citation de Rilke, extrait de la première élégie, m'est venue tout spontanément, car demeurer, cela n'existe nulle part. Et ça venait tout à fait en écho avec les interrogations du poète Mexica, qui est connu en un tel lieu. Vit-on encore vraiment ? On pourrait même introduire cette citation de Rilke dans le poème. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que un des aspects de la poésie, du moins à mes yeux, c'est le partage. La poésie, elle appelle d'autres poésies. Et elle ne se comprend en tant que telle, elle ne s'apprécie, et elle ne fait développer des questions qu'à travers cet éclairage mutuel. Parce que, aussi bien Rilke vient éclairer le poème nahuatl, de la même façon, le poète nahuatl vient éclairer le questionnement de Rilke et son travail. De la même façon, pour Hölderlin, on trouve également des passages qui s'imposent d'eux-mêmes. Donc ce rapprochement, alors c'est pas un plaquage pour dire « tiens ça », mais c'est quelque chose qui s'est fait, c'est un petit peu une alchimie, c'est comme la poésie, l'écriture. On ne sait pas le mystère qu'il y a derrière. Eh bien, là, ces rencontres sont un mystère aussi. C'est un mystère du fait des lectures, des sensibilités qui me sont propres. Et je trouve que ça a tout à fait sa place. Et ça rajoute à la fois donc, à la poésie nahuatl, et également, ça apporte quelque chose à ces poèmes de Rilke, d'Hölderlin, de Mallarmé, qu'on a tendance peut-être à lire de façon trop isolée. Parce que la poésie se lit aussi avec d'autres lectures, d'autres échos. C'est ça une poésie, c'est une gigantesque chambre d'échos. Et la présence de ces poètes-là et de leurs préoccupations me semblait tout à fait s'imposer. Elle est venue d'elle-même.
Et qu'est-ce que tu peux dire de la richesse propre à la langue nahuale, au niveau des métaphores, au niveau du degré d'élaboration de cette langue-là?
Alors, c'est une langue qui est très riche. Je le disais tout à l'heure, c'est une langue qui est agglutinante, qui se construit en agglutinant, en agglomérant tout un ensemble de racines. Et il y a des procédés qui sont particuliers. C'est une langue qui n'est pas construite dans la poésie sur le rime, le vers, sur la rime, comme on l'entend, nous, dans nos sonnets qui sonnent très bien. Mais c'est une langue qui se construit par un étoilement, c'est-à-dire on a des mots qui en appellent d'autres. Il y a un centre, et autour, il y a des mots qui gravitent, des expressions. Parmi les procédés, il y a ce qu'on appelle le diphrasisme. Alors, le diphrasisme, c'est quoi? C'est d'utiliser deux mots, parfois plus, pour désigner une seule réalité. Par exemple, pour prendre le cas de la poésie, in Xochitl, in Cuicatl, la fleur, le chant, désignait la poésie. In Tlili, in Tlapali, ça désignait l'écriture, l'encre rouge, l'encre noire, donc c'est ça qu'on utilise. Il y a un autre procédé, c'est le parallélisme. c'est le fait de, d'associer deux phrases, de répéter une même chose. Donc là, alors je ne sais plus si j'en ai une en tête pour retrouver ça, mais j'en retrouverai une probablement dans le de la lecture. Donc il y a également un jeu sur les consonnes, sur les voyelles. Et il faut savoir que ces chants, ils sont jalonnés de, d'onomatopées, d'interjections. Donc, par exemple, il y a un chant qui commence par « tokoto tikiti ». Donc ça, c'est pour marquer le rythme du tambour. Donc cette langue va jouer ensuite avec ses voyelles et ses consonnes pour, introduire une musicalité. Parce que cette langue, ces chants sont avant tout du rythme et de la musique. Il y a de la musique derrière, tout cela.
Alors, tu avais peut-être une autre... Parce que sinon, j'aimerais lire, puisqu'on approche de la fin de l'émission, je voulais lire un peu un extrait de la conclusion que tu donnes à ton ouvrage.
D'accord.
Qui est intéressant, justement. Voilà, tu dis... En parvenant à instiller dans la fleur, idée même et suave, la sensation et le mot... La poésie nahua a su garder le mystère de son immanence au monde, un mystère résumé par ce distique d'Angelus Silesius. J'y reviens. Sans pourquoi, la rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. N'a pour elle aucun soin, ne demande pas, suis-je regardé ? Avec la conquête, la pensée nahua était victime d'une double agression. La première tient à la confiscation de ses paroles au bénéfice du dieu chrétien, comme le révèlent dans certains chants des gloses en espagnol, faisant référence à un dieu unique ou à des anges, témoignage d'une volonté d'appropriation de la parole autochtone par les religieux catholiques. La seconde se traduit par la colonisation de l'imaginaire, pour reprendre l'expression de Serge Grzensky, c'est-à-dire un processus continu d'occidentalisation de la pensée et de l'imaginaire des sociétés indigènes du Mexique colonial. Est-ce à dire que la pensée nahua est définitivement anéantie ? Évidemment non. Indépendamment du fait que cette langue soit encore parlée aujourd'hui dans certaines régions du Mexique, elle s'est installée petit à petit au cœur même de la pensée des envahisseurs espagnols, car, ainsi que le relève Henri Mesconique, le nahuatl a pénétré même dans la syntagmatique espagnole au Mexique, pas seulement dans les mots. La poésie nahuatl ne mourra pas, elle est immortelle comme toute poésie. Le sous-commandant Marcos peut l'affirmer avec force aujourd'hui depuis les montagnes de la forêt Lacandon. Elle, alors là, en espagnol, je ne saurais dire.
No morirá la flor de la palabra.
Elle ne mourra pas, la fleur de la parole. Donc c'est sur ces lignes que nous allons éclore. Ah oui, tu voulais rajouter.
Alors,
oui.
Il y a un petit passage qu'il faut rajouter, qui est de Mallarmé, c'est l'avant-dire au traité du vers de René Gilles.
Ouais.
Je dis une fleur, et hors de l'oubli, où ma voix relègue aucun contour, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tout bouquet.
Ah, l'absente de tout bouquet. Ah oui, alors, Patrick Sorin fera également une lecture le 5 février à la Maison de l'Amérique latine. Tu peux nous en dire un mot ?
Tout à fait, c'est une lecture qui aura lieu de 18h30 à 20h30. Elle sera animée par Steve Baccarat de l'Institut du Tout Monde et des chants seront lus par Sophie Bourrel. Et il y aura un échange, bien sûr, avec le public.
D'accord. Donc il nous reste une minute, Ness, hein, qui nous aide à la technique et qui découvre la civilisation nahuale par la même occasion. Donc je rappelle le titre du livre de Patrick Sorin. Ça s'appelle « Les fleurs de l'intérieur du ciel, chant de l'ancien Mexique, traduit du nahual » et présenté par lui-même. Donc c'est sorti aux éditions José.
Et grâce au bon soin de Fabienne Raffos, donc, qui dirige la superbe collection du Merveilleux, qui vient de sortir des contes de Grimm, L'aile bleue des contes et autant de merveilles à découvrir. Donc je vous invite à lire ces livres de cette collection qui sont assez fabuleux.
D'accord. Donc, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. S'achève cette émission des Périphériques vous parlent. L'émission que vous venez d'entendre sera rediffusée mercredi prochain de 10h à 11h. Voilà. Donc, merci à toi, Patrick.
Et merci, Jules, de l'invitation.
Voilà. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.